Retrouve les podcasts des émissions sur Libradio, www.libradio.org.
Je posais peut-être une question qui fâche, genre... Donc théoriquement, il n'y a pas hiérarchie, mais est-ce que vous avez constaté, vous, au fil du temps, des hiérarchies informelles qui se mettent en place? Genre, le fait, vraiment, genre toi, par exemple, Anne, ça fait beaucoup plus longtemps que t'es là, que Marianne, par exemple. Plus d'expérience, donc potentiellement aurait eu plus de poids. Je sais que dans certaines dynamiques collectives, ça peut créer des dynamiques où, genre, théoriquement, dans la théorie, tout le monde a voix au chapitre, mais si cette personne parle, ben, on va plus tendance à l'écouter que l'autre personne. Est-ce que vous vivez un petit peu ce genre de choses-là?
Alors...
En fait, c'est difficile à répondre.
Ouais.
Peut-être qu'on n'aura pas les mêmes choses.
Ouais. Non, mais il y en a, mais je crois... Quand ça prend trop, ça devient trop important, à mon avis ça énerve trop les 6 autres ou 5 autres, c'est dans combien on est, et puis il y a une petite révolution, et puis voilà, ça change de nouveau.
Ça change de personne?
Non, ça change pas de personne, mais en fait, à mon avis, on s'en rend compte aussi qu'on prend malgré nous le pouvoir. Disons, ça prend plus ou moins de temps, mais effectivement, des fois, je dirais pour tout le monde, c'est... Contre notre gré que tu prends le pouvoir, parce qu'effectivement tu veux pas voilà, dire plus, mais évidemment tu connais les rouages, comment ça se passe par là, mais vu qu'on a aussi des spécialisations sur différents, ou qu'on est intéressé dans différentes choses, je crois que ça peut aussi s'égaliser un peu, mais effectivement la difficulté, ouais, là.
Ouais, il y a un peu quand même, je pense, enfin, on peut pas trop lutter contre le fait qu'il y a un peu un ascendant des plus anciens, forcément, parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience, parce qu'ils ont l'habitude de prendre la parole dans le collectif, ils ont l'habitude de savoir aussi comment prendre les autres pour faire passer une idée, etc. Et je pense que c'est pas un ascendant très pratique du genre c'est mon rayon, c'est moi qui m'en charge, ou enfin ça se matérialise jamais comme ça. C'est plus, je pense, du point de vue des nouveaux, c'est quand même assez dur d'arriver en disant je pense que faut faire comme ci, comme ça, face à un collectif qui marche comme ça depuis 40 ans. Surtout quand on n'a pas une expérience de libraire, enfin, forcément, je pense qu'il y a des... Il y a des ascendants qui se créent un peu naturellement. Je vois pas trop comment lutter contre ça, en fait. Parce que... Et c'est pas très concret, c'est des choses un peu diffuses de cette fois-ci, moi je reste en retrait parce que je me sens pas, je me sens beaucoup moins légitime. En fait voilà, c'est juste cette question de se sentir plus ou moins légitime. C'est plutôt comme ça que ça se concrétise, que comme des prises de pouvoir très concrètes sur un domaine, une action, une tâche, ou le fait d'être représentant de la librairie dans des événements extérieurs ou quoi que ce soit. C'est plus un espèce de sentiment de légitimité et sentiment d'illégitimité qui... Bah voilà, qui s'oppose un peu, enfin, je pense que c'est assez inévitable. Après, la réunion du lundi, je la trouve très... elle est vraiment aussi là pour que ceux qui se sentent le moins légitimes puissent aussi... Ils ont de la place pour prendre la parole. Ils ont de la place pour émettre des... suggérer de nouvelles idées. Parfois, c'est balayé d'un revers de la main parce qu'en fait, c'est aberrant et en fait, on s'en rend compte que oui, en fait, c'était aberrant, ça marchera pas. Et parfois, ça prend, mais voilà, je pense que c'est aussi une question de personnalité. On peut se sentir plus ou moins écrasé par la légitimité des autres qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que soi. Mais.
Je rebondis là-dessus. C'est vrai que, comme on l'a fait remarquer tout à l'heure, de fait, il y a des, comme tu dis, une ascendance, une forme de, on va pas appeler ça de domination, de par l'expérience, ce qui est normal, puisqu'on va se reposer sur les piliers, on va dire, de l'organisation qui perdure depuis un certain temps. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que, au-delà du fait, parmi les règles de prise de décision, enfin, il y a la prise de parole et de décision. La seule règle qui est établie, et encore pas écrite dans le marbre, Donc il faut l'entendre, ce qui n'est pas toujours le cas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec cette personne qui a travaillé avec vous, qui ne comprenait pas le principe du consensus, par exemple. C'est que c'est à peu près la seule règle, finalement, qui existe, qui est là, et à laquelle il faut, en quelque sorte, se plier, sinon ça ne fonctionne pas, l'autogestion. Mais justement, comment... Et au-delà de cette règle-là, qui n'est écrite nulle part, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont... du coup, de l'ordre de la transmission orale, de la tradition, comme tu disais tout à l'heure, tradition qui se... Parce que la prise de décision, alors même si il y a une sorte d'équilibre, de dynamique et d'équilibre qui se fait, qui s'est faite tout au long de ces décennies, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités qu'une personne parte fâchée parce que finalement ces principes-là, n'étant pas écrits, n'étant pas inscrits, on a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment respectés. Est-ce que ça peut exister, ça ?
Je comprends pas.
Alors, pour le dire plus clairement, c'est-à-dire il y a des règles de prise de décision démocratique, horizontale, mais on parle justement de cette ascendance que peuvent avoir les anciens sur les plus jeunes ou les plus récents. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité que des gens se rendent compte que malgré le consensus qui est établi, en fait, on ne trouve pas sa place et on part fâché de la structure parce que, pensant arriver dans une structure extrêmement horizontale, finalement, il y a ces personnalités-là, tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est important d'avoir une forte personnalité. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a de très bons libraires, mais qui n'ont pas forcément une forte personnalité, qui ont grande gueule en quelque sorte ? Ça peut arriver, ça. Est-ce que ça a été déjà le cas ? Tomber sur une personne très compétente, mais finalement qui n'avait pas l'épaisseur pour s'imposer, pour imposer ou amener ses idées et...
Alors, pas qui est parti fâché ou parti. Honnêtement, les gens qui voulaient faire partie de... En général, on a plutôt le problème qu'on ne trouve pas de libraire qui veut rejoindre l'autogestion parce qu'en fait, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges quand même. Tu as énormément de possibilités, mais il faut prendre la responsabilité. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, ils ne veulent pas faire ça. Donc, en fait...
Est-ce qu'on laisse je vais le reformuler. Est-ce qu'on peut laisser la place à des gens qui n'ont pas de forte personnalité ? Qui sont très bons libraires, a priori, qui adhèrent entièrement au principe d'autogestion. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont qui sont pas habitués, comme je disais tout à l'heure, Marianne, qui ne sont pas habitués à s'exprimer ? Est-ce qu'on va les outiller ? Parce que finalement, il y a aussi ça, c'est un apprentissage. On n'arrive pas avec un diplôme avec l'autogestion dans la peau, en quelque sorte. Est-ce que ça qui est pris en compte dans le collectif ?
Oui.
On va amener la personne qui arrive à lui donner les outils et l'accompagner en fait là-dedans.
Alors, c'est pas écrit comme ça, mais oui, alors par exemple, on a un collègue qui est là maintenant depuis 11 ans, et puis ça lui a pris, je dirais, 9 ans pour trouver sa place, et pour dire, et pour comprendre l'autogestion. Donc, mais voilà, il s'est accroché, il est toujours là, et puis voilà. Mais ça a pris beaucoup de temps. Mais quand on l'avait interviewé pour avant l'engagement, il a dit, moi j'ai jamais eu l'autogestion, pour moi ça va être un défi.
Ouais.
Et c'est resté un défi pendant très 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 longtemps.
Wow.
Mais voilà, donc il est encore là, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont partis fâchés, mais je dirais pas pour...
Pas sur ça.
Pas par rapport au fonctionnement, ouais.
Non, peut-être plus sur les questions politiques, au final. Enfin, peut-être qu'il y avait des divergences aussi politiques qui ont pu frustrer, ou voilà, mais pas forcément sur le fonctionnement en lui-même. Et pour répondre à ta question, je pense qu'il y a vraiment la place dans ce collectif pour quelqu'un qui n'a pas une très forte personnalité. On n'est pas... Il y a de la place pour tous les gens qui ne sont pas des grandes gueules. Par contre, je dirais qu'au-delà du charisme ou je sais pas quoi, par contre, le truc un peu indispensable, c'est l'envie, quoi. Il faut qu'il y ait des envies et il faut qu'il y ait des idées et des envies. Après, effectivement, si on n'est pas à l'aise à parler en public, c'est plus difficile de les mettre en œuvre parce qu'il faut les présenter aux autres, ces envies, puis il faut qu'elles soient acceptées par tous. Mais on n'a pas besoin d'être un ténor de la prise de parole ou d'avoir une personnalité extrêmement forte pour faire sa place, je trouve, dans cette organisation autogérée. Mais par contre, je dirais qu'il faut quand même avoir faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire ici et quelles idées on a. Et parce que pour le coup, si on se laisse porter par les idées du collectif, les idées des autres, ça fait beaucoup moins sens. Enfin, la présence dans l'autogestion, elle est moins pertinente, je trouve. Mais c'est pas une question de charisme, je dirais. Enfin, ou de personnalité, quoi.
Ouais, je crois qu'il y avait le monsieur là aussi. Je sais pas qui c'est qui a levé la main, enfin qui a demandé la parole dans le premier.
Non, mais moi, souvent, ça a été la question qui a posé, elle rejoignait.
Parfait. Génial.
C'est plutôt de bécheresse, c'est bien, parce que vous êtes du coup 7, c'est ça ? Je suis dans une structure, on est 20 de plus. Ça laisse plus de cas, plutôt de gens qui se. Non pas qui ne trouvent pas la place, mais qui n'apprennent pas parce que ça leur convient extrêmement bien de se laisser porter, avec justement des histoires de. Pas d'ascendant, mais de pouvoir. Bah dans les faits, en fait, il y a des choses qui doivent être faites. Et du coup, avec toujours les mêmes personnes qui vont prendre des responsabilités, parce que si on ne sait pas faire, on a des tâches extrêmement spécifiques qui vont de la comptabilité à nettoyer les toilettes. Et qui, du coup, sont toujours assumées par les mêmes et qui, tout d'un coup, commencent à prendre une position ascendante. Enfin, ouais. Que d'autres n'ont pas. Et comme on n'a pas non plus des tâches établies, et ben, pas rappeler à l'ordre quelqu'un en disant hey, c'est ton travail de faire ça parce que parce qu'il n'y a personne pour rappeler à l'ordre et que du coup, je sais pas si ça vous arrive aussi dans une petite structure ou si le fait qu'il y ait moins de gens.
Ouais, je crois qu'avec moins de gens le risque n'est pas vraiment là parce que tu peux pas te défiler en fait. Avec 7, tu dois faire le travail. En plus vu qu'on n'est pas tous là.
Ouais mais visible.
Non.
Ouais, je trouve que la question du nombre, elle est hyper importante dans l'autogestion. Je disais dans le bouquin là, qui a été fait sur le boulevard, ça revient à plusieurs reprises que 7, c'est la limite. Enfin, c'est écrit plusieurs fois, ça. Que d'ailleurs, à 7, on voit que quand il y en a un qui est malade, c'est vachement plus fluide, tout de suite, la réunion du lundi. Ouais. Enfin, voilà. Donc la question du nombre de personnes, je pense qu'elle est assez majeure quand même sur est-ce que ça marche ou pas, l'organisation en autogestion. Et effectivement, à 7, on peut pas trop. Enfin, on peut de temps en temps se cacher derrière le collectif ou se faire tout petit, mais on peut pas très longtemps, quoi. Parce que ça se voit. Enfin, ça se voit vite.
Ouais.
Et puis, ça se sent super vite aussi sur l'organisation du travail. Donc, je pense que quand on est 20 ou plus, ça pose beaucoup plus de problèmes. Enfin, c'est moins facile à mettre en œuvre, je veux dire. Je pense. Il y a aussi la différence entre un collectif qui gère une librairie, qui est quand même un commerce, et un collectif politique ou associatif, où il faut faire sa place sur des idées. Alors que là, disons que même s'il n'y a pas, on n'a pas le tonus pour faire sa marque, etc., qu'on ne se sent pas des capacités d'orateur de fou, en fait, de toute façon, il y a ce truc à faire tourner, et on sait, il y a des tâches quotidiennes. Disons que ça facilite aussi l'intégration des nouveaux, le fait que voilà, c'est un commerce qu'il faut faire tourner, on sait tous quelles sont nos missions pour la journée, pour la semaine d'après, etc. Et c'est déjà une énorme base commune qui fait que qu'on est pris dedans. Après, la question de faire sa place, d'imposer ses envies se greffe à ça, mais dans un collectif politique, moi j'ai jamais réussi à m'inscrire dans un collectif politique parce que tout reposait un peu, j'ai l'impression, sur sur le projet, sur qui était. C'est pas un truc qui tourne et dont on sait exactement comment on le fait tourner. C'est tout le temps en réinvention. À quelle lutte on participe, quelle lutte on participe pas, qu'est-ce qu'on met en place. Enfin voilà, je sais pas, je trouve que c'est plus facile de faire sa place dans un commerce où le but commun il est très très clair. C'est faire tourner cette librairie, quoi. Enfin, c'est pas très clair, quoi, ce que je dis, mais... En tout cas, bref, ben, personnellement, c'était plus facile pour moi de m'intégrer en autogestion dans un collectif comme ça, dans une librairie où je savais ce que j'avais à faire, que dans n'importe quel collectif politique où prendre sa place, c'est vachement difficile, je trouve.
Oui, je suis désolée, je suis arrivée avec un retard. parle, t'as dit. Et vous êtes organisé juridiquement comment? Comme en coopérative?
Ouais.
Voilà, il y a voilà, cette différence entre les associations. Et puis la deuxième question. Le consensus pour vous, c'est quoi? C'est le minimal acceptable pour tout le monde. C'est ça? Ou est-ce que vous avez une définition de consensus?
Non. Disons, voilà, on discute et puis tout le monde dit ouais, je suis d'accord ou je m'en fous ou ah ouais, super. Disons, ça, le mélange entre ça, ça donne le consensus, non?
Avec les personnalités fortes, j'imagine pas.
Oui, mais parce que c'est non, mais parce qu'on n'a pas nécessairement, on met pas l'importance sur les mêmes choses. Mm-hmm. On a quand même, on est voilà, on a tous des caractères assez forts, mais on est sensible à des choses différentes. Donc si quelqu'un dit ah ben on va faire un stand au salon du livre, alors on discute est-ce que vraiment notre place est au salon du livre, voilà. Mais si après il y a deux personnes qui disent ouais, je trouve, voilà, il faut y aller, et puis je le prends en charge, les autres disent soit non, c'est vraiment pas notre place, il faudra discuter du fond, ou ils disent si tu veux aller, ben voilà, t'as ma bénédiction, mais moi je vais pas m'investir plus là-dedans. Voilà, donc ça peut donner des choses comme ça. Ou ben voilà, on invite tel et tel auteur. Ça me barbe, alors je ne vais pas être là, mais je ne suis pas contre le fait. Par contre, il y a des auteurs où peut-être il y aura quelqu'un qui dit ah non, ça, vraiment, ici, non.
Et il suffit d'un veto pour que ça,
ouais,
que ça saigne.
Et le veto est justifié, enfin, doit être justifié. Donc c'est juste enfin, j'aime pas, et puis ça suffit.
Non, mais je crois que la justification, c'est non, je le sens pas, ça suffit. D'accord. Déjà. Donc on ne demande pas, tu dois justifier. C'est, on veut savoir, évidemment, mais si la personne ne peut pas mettre des mots dessus, s'ils ne sont vraiment pas, c'est trop fort, et on ne peut pas changer son avis, voilà. On ne sait pas.
Est-ce que vous dédiez vraiment du temps pour les questions stratégiques? Parce que, à mon avis, il faut vraiment faire la différence entre voilà, toutes les choses quotidiennes, il faut faire tourner la librairie, et puis la vision stratégique, je sais pas. Et est-ce que vous dites par exemple, chaque lundi, on va prendre 30 minutes pour discuter de la stratégie, puis l'autre. Heure, deux heures de notre réunion, on discute voilà, les choses courantes. Parce que si vous savez, il y a ce truc de time management quand les quatre voilà, exactement. On a une tendance de rester toujours dans les choses urgentes et importantes. Il y a l'autre quadrant qui est très important mais pas urgent. Et moi, dans ma propre situation, c'est pas la même chose, c'est une association. Alors, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de place pour discuter la stratégie. Je sais pas, comment vous faites-vous? Moi, je sens qu'on est toujours dans les urgences importantes, mais c'est les trucs de quotidien, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de... Voilà.
Alors, il y a des moments là, actuellement, on a beaucoup plus de temps pendant nos réunions, donc on peut parler de toutes les choses. Il y avait effectivement des moments où on devait, voilà, il y avait tellement de choses purement pratico-pratiques qu'il fallait régler, soit on disait, ok, on commence par parler une demi-heure de ça, ou encore on s'est dit, ok, on n'arrive jamais les lundis parce qu'il y a trop de choses. On agende une réunion un soir, on mange ensemble et puis on discute des choses. Donc on fait ça, ça se fait automatiquement, ou voilà, on dit, voilà, ah, on devrait parler de ça, on voit si on a encore du temps, on repousse sur la semaine prochaine, puis là, si on voit qu'on n'arrive pas, on essaye d'agender, mais on n'utilise pas des stratégies très formelles, voilà. Ça se fait tout assez organique, en fait.
Okay.
Qu'est-ce que j'allais dire? C'est que d'abord, ça fait plaisir de voir un projet d'autogestion qui fonctionne, surtout sur la durée, parce que les choses qui fonctionnent en autogestion, c'est souvent assez éphémère. Là, c'est quelque chose de voir quelque chose qui se déroule plutôt bien. Voilà. bien sûr aussi le fait qu'il y ait une rentrée d'argent quand même, ça fonctionne bien aussi financièrement, ça, ça aide aussi à l'autogestion de fonctionner, ça, pour le rappeler aussi pour l'avoir. Et ça fonctionnerait aussi bien s'il n'y avait pas des entrées d'argent, enfin, s'il y avait plus de tension. Voilà. Mais l'autogestion, ça peut prendre plein de formes, il me semble, et puis c'est plus un état d'esprit, c'est-à-dire une volonté de vouloir travailler d'une manière horizontale, et puis voilà, je crois que... Et puis, à Genève, il y a plein d'exemples d'autogestion qui ont eu lieu, Bon, je suis sûr qu'autour de nous, on est tous en train d'essayer de pratiquer ça le mieux, plus souvent qu'on peut. Alors, moi, je suis travailleur social, dans l'animation socioculturelle, il y a un panneau qui parle de la maison quartier là, et il y a une maison quartier à côté, où là, il y a des exemples d'animation socioculturelle, où des travailleurs sociaux, depuis aussi 30 ans et plus, essayent de défendre un fonctionnement autogestionnaire, au moins horizontal en tout cas. C'est une autre sorte de situation. Ça existe là, il y a le nid pas très loin d'ici, c'est aussi autre chose. Mais il y a plein de gens qui s'essayent d'essayer de pratiquer, surtout sous le mode associatif, des modes de fonctionnement qui sont différents de celui hiérarchique, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de durée.
Ouais, c'est super en fait que ça reprend aussi, disons, parce que la plupart des choses qui sont maintenant sont assez récents. Je me rappelle à une époque on était un peu quand quelqu'un voulait parler de l'autogestion ou voulait faire quelque chose sur l'autogestion, on nous invitait parce qu'on était les seuls.
Oui.
Et maintenant c'est voilà, il y a là, donc c'est super. Mais à part ça, pour le truc de l'argent, alors effectivement il y a des moments où par exemple où la librairie va moins bien, donc on n'était pas toujours à 7, on s'est pas toujours agrandi, il y avait aussi des moments où ça allait moins bien, on avait de la chance que sur ces moments-là il y avait une personne qui partait à la retraite ou de toute manière des gens qui voulaient partir. Donc ça c'est assez bien, toujours goupillé, mais c'est sûr, si à un moment donné il nous manque l'argent, c'est nous qui devons dire ok, on va soit gagner moins, soit travailler moins et gagner moins. Donc c'est à nous de prendre la décision du coup et dire ok, comment est-ce qu'on fait, on ne peut pas se payer ce qu'on se paye maintenant, comment est-ce qu'on fait.
Puis je continue avec. Je peux ? Ouais. Non, j'ai quelqu'un d'autre. Moi, c'est une autre chose que j'ai remarqué, mais c'est un peu confus dans ma tête. Mais en fait, l'autogestion, les lieux qui pratiquent l'autogestion, c'est souvent été des lieux où c'est des personnes qui se sont impliquées au départ et qui ont lancé la dynamique, qui ont été un peu porteurs. Puis après, on essaie de trouver un équilibre et d'ouvrir, et puis il y a besoin de. Mais vous l'avez dit, il y a ces questions de responsabilité. Pour pratiquer l'autogestion, ça nécessite un investissement qui sort de l'ordinaire, et puis il y a des périodes de la vie où on a plus de temps à mettre que d'autres, j'en suis là dans ma réflexion.
Ouais, mais c'est sûr, disons, c'est pas, on laisse pas à 6h30 quand on ferme la librairie, on n'arrête pas de penser à la librairie, ça va mieux quand tout se passe bien, mais les moments où c'était vraiment, on était à court d'argent, on rentre à la maison, on dit qu'est-ce qu'on pourrait inventer, comment est-ce qu'on... Donc on est dedans, quoi. Le week-end, on pense à la librairie, on réfléchit, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire, la vitrine, je voulais faire, Donc c'est effectivement, c'est un engagement à temps plein, même si on bosse à temps partiel.
Ouais, moi, juste en introduction, vous avez annoncé une interruption pour une pause, mais en fait, le temps file, il est déjà 8h, alors la question, c'était de savoir est-ce que vous préférez vous arrêter un moment maintenant et reprendre après, quitte à repousser la discussion jusque bien plus tard dans la soirée, ou alors est-ce qu'on va jusqu'à 8h30, on continue à discuter, c'est aussi à vous de dire en fonction de votre fatigue, et à 8h30, on s'arrête, on met fin à la discussion et on va tous manger, on vous a installé des tables dehors. Il y a les salades qui sont prêtes. Est-ce que vous avez une préférence?
Moi, je préfère la deuxième option.
Ouais.
On va jusqu'à 8h30, puis après on s'arrête, puis on continue à papoter entre nous. Voilà. Parfait. Voilà. Désolée pour l'interruption.
Et sur ce que vous disiez, sur les moments de la vie, on a plus ou moins la force de s'investir ou pas, je trouve que c'est quelque chose qu'on prend pas mal en compte aussi dans le collectif. C'est-à-dire que les réunions du lundi, on parle de la librairie, mais on parle aussi de nous. et quand quelqu'un va pas bien ou a une situation familiale, personnelle compliquée, en général on le sait, et on le sait vachement plus vite que dans un autre boulot, je trouve, parce que bon, déjà ça se ressent vite en autogestion quand quelqu'un va pas bien ou a moins d'énergie, et ça c'est aussi notre boulot de prendre en charge, c'est-à-dire que dans l'autogestion du coup il n'y a pas de la question du personnel, de la gestion du personnel, et de ne pas déléguer un RH ou je sais pas quoi, c'est à nous aussi de faire ce boulot ce boulot relationnel, de savoir comment vont les uns les autres, est-ce qu'on peut alléger la charge de travail de quelqu'un qui clairement là est malade, se sent fragile, etc. Enfin, ça arrive souvent, je trouve, et puis c'est bien pris en compte. C'est vraiment, il y a une attention portée là-dessus assez forte.
Vous avez l'air d'avoir un peu une approche les uns et les unes vis-à-vis des autres assez bienveillante, ce que je trouve assez cool. C'est ça qui crée un peu l'atmosphère. Mais les conflits peut-être existent aussi quand même, enfin, c'est des individus, etc.
Oui, oui.
Si ça existe, est-ce que vous avez un moment dans ces réunions pour régler ces conflits? Ou bien vous comptez sur la bienveillance un peu générale pour que ça se résolve de soi-même? Est-ce que vous
créez
un cadre pour pouvoir...
Non, on ne crée pas un cadre. On s'engole pendant la réunion, ou après, ou avant, ou je n'en sais rien. Non, mais en fait, c'est vraiment extrêmement peu réglé ce qu'on fait. Donc, c'est très spontané. Donc, voilà, il y a un sujet qui fâche, ou il y a quelqu'un qui est vraiment de mauvaise humeur un lundi matin, et puis ça pète. Et puis, voilà, ceux qui ne sont pas... directement concerné, regarde qu'est-ce qui se passe, et puis
parfois ça se règle entre personnes après la réunion aussi. Si c'est un problème interpersonnel entre deux personnes, la réunion n'est pas forcément le lieu pour régler ce problème, et effectivement tous ceux qui sont extérieurs sont un peu dépourvus de réponses, et donc parfois ça se règle aussi entre personnes après, et c'est pas du tout formalisé ni rien.
Ouais, mais des fois, une personne, si c'est entre deux personnes, il y a une personne extérieure, là, t'as peut-être pas très bien réagi. Donc, voilà, c'est aussi, ça dépend aussi évidemment des personnes du collectif. Il y a des gens qui sont plus médiateurs que d'autres, donc qui ont aussi la capacité d'aller vers quelqu'un d'autre et dire là, tu crois pas que t'as surréagi, ou mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qui ont plus ce lien. Que d'autres, et arrivent du coup après coup à faire réfléchir, et puis des fois voilà, ça pète à la réunion, on s'engueule, et puis mais on n'est jamais ressorti complètement fâché. Comme je disais, c'était avant que j'arrive, il y avait vraiment une période où ça marchait plus du tout, où ils ne se parlaient plus, et disons, il y avait se concentrait sur une des fondatrices qui en fait écrivait des lettres aux autres. Donc ça a dû être... je ne veux pas savoir comment ils ont vraiment vécu ça donc, dans leur fort intérieur. Mais ça a quand même, grâce en l'occurrence à l'intervention d'une personne extérieure, ça a réussi à se décoincer. Donc ça existe. Mais pour l'instant, ça va bien.
Je me disais aussi, c'est juste une réflexion par rapport à ta question et la réponse. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a l'importance du nombre à la librairie. C'est parce qu'il n'y a rien de fixe comme ça sur la gestion du conflit ou quoi. Et que c'est plus, comme vous décrivez, pour plein de choses, c'est organique et c'est rien, pas forcément décrit, mais de poser, et que c'est tellement mouvant.
Ouais.
Du coup, à un plus grand nombre, ce sera encore plus compliqué, je pense.
Oui, on n'a pas eu, par exemple, à mettre en place des techniques de communication non violente ou ce genre de choses. Qu'on voit beaucoup dans les associations ou les collectifs où il y a maintenant ces gestes pour dire on s'écarte du sujet, faites silence, tout ça. Je pense qu'en fait, c'est hyper important quand on est beaucoup à prendre la parole, etc. Nous, à notre échelle, on n'a pas trop besoin de tous ces outils, j'ai l'impression. On n'a pas besoin de le formaliser à ce point, en fait.
Et peut-être le fait aussi qu'on ne formalise pas, ça aide au fait qu'on peut bouger, qu'on peut changer. Parce que si c'est trop formalisé, à un moment donné, on reste juste avec ce qui est écrit et puis on n'arrive plus à faire un pas en arrière et dire « Ah, mais en fait, on pourrait régler le problème d'une autre manière. »
Si je peux, je me demandais juste quelle marge de manœuvre vous avez, vous ? Parce que vous réglez vraiment tous les petits détails du quotidien dans cette réunion du lundi ou est-ce que vous avez une certaine marge de manœuvre au niveau des décisions ?
Alors, si quelqu'un vient et nous apporte une affiche, est-ce que je peux mettre cette affiche ? Non, ça, voilà, on peut faire. Et puis, le choix des livres, ça, c'est chacun prend les livres qu'il veut. Disons, il décide des livres qu'il veut prendre, qu'il veut avoir dans la librairie, quitte à, après, discuter avec les autres. Mais pourquoi est-ce que tu as pris ce truc réactionnaire ? Mais bon, voilà. Mais chacun a a priori le droit de la compétence de faire son boulot de libraire et prendre les livres qu'il elle, ou elle estime importants. Voilà. Et après, évidemment, en été, voilà, pendant 8 semaines, on est jamais là. Tout le monde, s'il y a une décision qu'il faut prendre d'urgence, ben là, on discute, mais minimum à deux. On est minimum deux, le plus possible, des fois trois. À discuter pour déjà aussi pour nous protéger. Disons, c'est beaucoup plus facile de porter quelque chose. Ce n'est pas une personne à dire oui, on fait, et puis voilà, je dois faire ça toute seule. Mais aussi, voilà, pour être quand même, pour dire ok, voilà, on est plusieurs qui sont d'accord, on fait ça. Voilà.
Je peux, moi ?
C'est bon. Bah, oui, s'il n'y a personne d'autre.
Non, je remarque. Il y a beaucoup de questions qui sont posées et qui sont des problèmes exprimés finalement d'un rapport au travail dans un système autoritaire. C'est-à-dire que beaucoup de questions, comme tu les poses, tout le monde se dit l'autogestion c'est comment ? Parce que moi, dans le monde autoritaire, je rencontre des gens qui sont mal, des gens qui s'engueulent, des gens qui prennent leurs responsabilités. Celui qui ne veut pas nettoyer les chiottes ou des machins comme ça. Enfin, tous ces machins, bon, je ne parle pas des milieux militants où là, c'est un travail de transformation de la société avec des gens qui ne sont pas toujours d'accord. Enfin, ça, c'est un autre mouvement. Mais dans le monde du travail, beaucoup de questions sont posées comme ça. C'est-à-dire que c'est. C'est d'après ce qu'on voit. Mais ce que j'entends là, c'est que finalement, autogestion, il n'y a rien de plus simple. Moins il y a de règles, mieux ça marche. Et comme disait Anne au début, ça respire. Suivant les gens qui sont là, ça se modifie, ça se transforme, ça avance, ça bouge. Et c'est ce qui fait que les choses peuvent fonctionner. Et finalement, toutes les questions qu'on se pose en se disant « Mais est-ce que l'autogestion peut amener ça ? Parce que moi, je suis confronté à ça. » Non, la vraie question qu'on doit se poser, c'est « Est-ce qu'on doit se débarrasser de l'autoritarisme pour arriver à ça ?» Et quand tu poses la question, ça peut marcher dans un petit monde, une petite structure. Non, parce qu'une petite structure, plus une petite structure, plus une petite structure, ça peut faire déjà une structure importante. Bon, si on mettait l'autogestion dans une usine, par exemple, on pourrait redéfinir l'usine, il faudrait peut-être faire des fabriques plutôt que des usines gigantesques. Mais c'est toute la reconstruction peut-être d'une société, mais c'est l'investissement de chacun avec son savoir-faire qui permet l'autogestion. Et c'est cette grande liberté et la conscience de ce qu'on doit réaliser collectivement qui permet, là, moi l'exemple que j'ai là, c'est que moins il y a de règles, moins il y a de bidules pour essayer de cadrer parce qu'on a peur, moins on a peur, mieux ça va quoi en fait.
Moi je voulais répondre parce que je crois que tu as supposé qu'on parlait du monde du travail, mais en tout cas personnellement, moi je parlais de ma situation en collectif.
Ah, j'attaquais il y a personne.
Ah, mais, non, mais c'est pas une attaque, mais genre tu parlais de. Ah oui, mais vous avez cette truc dans le monde du travail autoritaire. Mais je crois que là, beaucoup de témoignages, c'était dans justement des collectifs où il y a eu des problèmes. Moi, je viens d'un collectif où justement, en autogestion, où on est face à des problèmes. Et justement, moi, il y a des fois où je me suis dit, c'est la deuxième fois que j'arrive dans des collectifs où il y a des personnes problématiques et où on ne sait pas comment gérer ça. Et du coup, moi, j'étais arrivée dans cette conclusion de déjà, il faut connaître les personnes et aussi, il faut quand même des règles sur lesquelles se référer. Après, là, c'est super intéressant de voir que vous fonctionnez sans règles et juste parce que vous êtes dans la même dynamique, quoi. Mais ça arrive, moi, j'ai habité en squat à Paris où il y avait plein de personnes qui prenaient le pouvoir et même des gens qui sont venus qui étaient super oppressives et même violentes. Et du coup, on n'a pas su comment gérer parce qu'on n'avait pas de règles et que du coup ça, c'est devenu la tyrannie quoi. Mmh. Et du coup c'est pour ça que c'est difficile à gérer et de, des fois de comprendre est-ce que du coup d'un coup le collectif il doit se mettre contre cette personne là et lui demander de partir ou alors et mais du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était que vu qu'il n'y a pas de référentiel de règles qui dit une personne peut partir si elle, si, ou, si elle émet trop de comportements négatifs. Et c'est devenu personnel, du coup la personne disait mais non, là c'est juste parce que c'est moi, que tout le monde s'est monté contre moi, que cette personne manipule, ta, ta, ta. Enfin du coup c'était super compliqué, et ce qui arrivait c'est que c'est moi qui suis partie parce que ça me convenait plus dans, à ce moment-là de ma vie, et que j'ai pris beaucoup de leçons de ça, et que j'essaie de prendre des notes. Dans le collectif maintenant où j'habite aussi, je suis essayée de prendre des notes, et il y a d'autres conflits, là il y a une personne aussi qui prend dessus sur les autres, et là il y a des personnes qui s'en vont au goutte à goutte. Et du coup, voilà, des fois quand il n'y a pas de règles aussi, des fois ça peut être oppressif.
Ben, j'ai bien fait attention, j'ai bien dit,
mais
le collectif et les associations, c'est différent.
Ouais.
C'est pas la même chose que de faire ensemble quelque chose, de définir qu'on fait ensemble. C'est pour ça que j'ai bien mis les collectifs et puis les associations à l'écart, qui ont une autre dimension. C'est les gens qui se rencontrent pour aller essayer de faire peut-être quelque chose ensemble. Mais ils vont faire quoi? Ils savent pas trop, et c'est en mouvance. Et dans cette mouvance, il y a des gens, il y a des idées tellement différentes que souvent tu as des, des séparations.
C'est pour ça que l'aspect d'avoir un objectif.
C'est un peu ce que je disais, c'est plus simple, je trouve, d'avoir un objectif.
Avoir un objectif et avoir aussi une organisation qui est fermée, entre guillemets, qui n'est pas ouverte. Vous sélectionnez les personnes qui rentrent. Ce qui fait aussi une énorme différence. Alors que dans un collectif ou un n'importe quelle association, n'importe quelle partie, tout le monde vient parce que juste. Parce qu'il a envie de venir. Et tu sais pas comment ça va se, comment va se faire la fusion.
Des fois, on pense que ça va se faire bien, et en fait, on se rend compte que non.
C'est pas de la magie d'autogestion, hein, en fait.
Il y a juste quelqu'un qui...
Malheureusement.
Ouais, je voulais juste... en fait, en l'occurrence, mon témoignage, j'ai aussi une entreprise, à but non lucratif, mais qui gagne de l'argent et qui doit tourner. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose quand même que tu disais, c'est l'idée que... L'idée que je partage, dans laquelle je crois profondément, que parce qu'on est autogéré, tout le monde va arriver avec l'envie de s'investir et la conscience du but auquel on tend, qui est de pouvoir bah, quand même faire tourner notre machin et manger à la fin du mois en l'occurrence, parce qu'on en vit en plus. Enfin, il y a quand même des je dirais qu'il y a le côté tout à fait utopiste à l'interne, et puis il y a des exigences externes, qui est que bah, on va faire de la compta, on va payer des impôts, enfin voilà, des trucs comme ça. On a des délais voilà, externes qu'on ne peut pas maîtriser. On doit quand même faire un certain nombre de choses, et quand on disait qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent à endosser les tâches, parce que ces tâches doivent être faites. Du coup, bah, on ne peut pas se dire bah, je ne fais pas, comme ça les gens vont bien se rendre compte que ça doit être fait, parce que j'en vais pas fermer non plus, pour donner une leçon à d'autres. Enfin, c'est un peu extrême. Et du coup, ouais, ce truc de que les gens vont avoir cette conscience-là et vont être prêts à s'investir pour remplir ce but. Et ben, c'est pas toujours le cas, et je pense que...
Mais vous en parlez, vous leur dites, mais là, ça fait 5 semaines que t'as pas...
Je pense que des fois, c'est difficile, justement, comme il n'y a pas une structure pyramidale avec un manager qui est censé déléguer des tâches en disant « ça, c'est ton cahier des charges, et tu dois faire ça, 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 et si tu l'as pas fait... » Bon, on n'a pas envie de faire ça.
Du coup, c'est vrai qu'il y a... Ça pourrait être un rôle qui tourne, aussi. Ça pourrait être un rôle qui tourne, mais...
Ça pourrait être un rôle qui tourne, mais du coup, ouais, la question se pose de savoir de comment est-ce qu'on fait du coup, pour faire que ça fonctionne. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on doit plutôt glisser vers une forme de gestion participative, des rôles quand même un petit peu, peut-être qui tournent, etc. Mais est-ce, enfin, c'est pas si évident que ça. Et moi, j'adorerais en fait que parce qu'on est autogéré, tout le monde est à cœur et à conscience de se rendre compte que tout ce qui fait partie de ça. Ça marche au même, en l'occurrence, on n'en parle pas, mais...
Du coup, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que vous avez des espaces de parole où vous pouvez être tous réunis et un lundi matin chez vous, quoi?
On fait des réunions, on a des... Bon, en l'occurrence, on est 27, du coup, on a des sous-groupes de travail, des fois, parce qu'on va pas être 27 personnes pour tout, parce que c'est juste... Enfin, c'est trop... Des
sous-groupes
de travail.
Je pense qu'il y a
que sous-jacent de ce que vous présentez, il y a beaucoup de règles et de coutumes qui existent, qui permettent à l'autogestion de se mettre en place. Il y a beaucoup de garde-fous dans tout ce que vous avez dit, qui font en sorte que les gens ne peuvent pas abuser du pouvoir. Alors certes, vous travaillez par affinité, mais moi, je ne crois pas à une autogestion qui se fait sans des règles et des choses assez bien définies, parce que plus le pouvoir est flou, plus on peut en abuser. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout soit étouffé, mais il y a quand même un certain nombre de bases à mettre en place lorsqu'on est en société pour éviter que des choses partent de travers.
Mais justement, une des choses qui avait mis en place, c'était justement le truc que voilà, tout le monde gagne la même chose. Tout le monde travaille à temps partiel et la comptabilité, c'est pas une personne pour un commerce ou voilà, une structure qui dégénère ou qui travaille avec beaucoup d'argent. C'est quand même des choses très importantes pour que ça garde un minimum. Après, évidemment, c'est aussi une question de personnage. Il y a des gens qui prennent plus facilement le pouvoir. Et puis, voilà, après, ça dépend des autres personnes qui sont là aussi. Est-ce qu'ils peuvent dire « Ouh, là, tu fais rien » ou « Tu fais trop » Est-ce qu'il y a un contre-pouvoir qui se crée par d'autres personnes ou justement des gens qui disent « Ouh, là, tu commences à jouer au chef. » Disons, chez nous, c'est très souvent. Genre, tous les 3 ans, ça arrive avec celui qui maintenant est là le plus longtemps. « T'es toujours au chef, là. » Et puis, ça le fait prendre conscience que, oups,
même sur le ton de la blague, en fait. C'est des gens qui se remettent en question aussi.
Voilà.
Ça, c'est important.
Mais cette remarque de « attention, tu joues au chef », c'est vrai que ça on fait souvent la blague. C'est une blague, finalement, qui n'en est pas tant une que ça, parce qu'en fait, ça permet juste de rappeler que, bon, là, on est 3 cet après-midi, donc on est 3 à prendre la décision, Il y a quand même des petits rappels de temps en temps. Et puis sur la question de comment on fait quand une personne, quand il y a un problème d'organisation, qu'une personne assume moins ses tâches ou pas, il y a quand même des fois le fait de jouer le mauvais rôle de celui qui dit à l'autre « Bon, t'as fait faux la semaine dernière » ou « Là, il y a ce problème-là qui s'est créé parce que t'as fait ci, ça ». Enfin, on s'empêche pas de se dire les choses désagréables. On s'empêche pas d'être critique. Sans dire bien sûr tu travailles mal ou quoi que ce soit, mais disons que quand il y a des choses qui tournent pas rond, il y a des bourdes qui sont faites, il y a toujours quelqu'un pour endosser ce rôle pas super agréable de le dire quand même.
Ou ce que nous on fait aussi des fois, c'est quand on voit qu'une tâche qui incombe a priori à une personne n'est pas faite, on dit mais voilà, ça fait quand même assez longtemps, ça devrait être fait, est-ce que c'est trop, est-ce que t'as besoin que quelqu'un t'aide? Ce qui laisse la porte ouverte pour la personne de dire « Ah, actuellement, je vais pas bien, donc est-ce qu'effectivement quelqu'un peut m'aider ?» Ou « Ah oui, je suis désolée, j'ai vraiment zappé ça, j'avais pas envie, mais... » Donc, essayer de pas venir avec le bâton et « Ouf, tu devrais faire, mais ok, on constate que c'est pas fait, pourquoi est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ce soit fait ?» Donc, c'est aussi... On avait déjà ça aussi, que voilà, quelque chose n'était pas fait, on admet... Ah, c'est quand même important que ça fait. Et puis la personne a dit, mais en fait, c'est une tâche que moi, j'arrive pas à faire. C'est pas dans, j'arrive pas à suivre ça d'une manière assez coordonnée. Donc effectivement, peut-être je devrais changer avec quelqu'un d'autre, faire autre chose. Et comme ça, ça règle le problème. Mais c'est vraiment être beaucoup aussi à l'écoute l'un de l'autre.
Ouais, je pense qu'il y a un effet de nombre aussi qui fait ça.
C'est quoi ton... là où tu travailles?
Je travaille avec Coopérative Petit 13. Mais du coup, on a beaucoup de lieux et beaucoup de gens. Et du coup, ça fait des sous-équipements.
Effectivement, c'est beaucoup plus difficile si tu es dans deux différents lieux.
Soi, ça, je veux dire, ça marche.
Mais du coup, ça peut pas être autonome, les lieux, un peu et...
Non. Tu peux expliquer ce que c'est,
pour ceux qui ne savent pas. C'est des ateliers de vélo.
Ateliers de vélo. D'accord. Puis ils se parlent un peu plus fort.
C'est des ateliers de vélo. Ouais, de réparation de vélo et de...
Ça fait des mois que je devais venir.
Mais effectivement, disons, je me rappelle chez Basta, donc qui est aussi librairie autogérée à Lausanne, qui ont deux lieux, qui en plus ont des fréquentes, disons, une fois c'est à l'université, une fois c'est en ville. Donc ils ont des clients très différents, ils ont des fonctionnements très différents. Et puis entre les deux lieux, de garder la bonne entente et puis les discussions, ça ne marche pas nécessairement aussi bien parce que voilà, c'est deux lieux. Et tu ne parles pas nécessairement de la même chose et t'es pas, tu te croises quand même que à la réunion. À la
réunion. Enfin, ouais. On n'a pas une équipe qui bosse que à un lieu et une qui bosse que à l'autre.
Au moins ça sent moins.
Moi, je trouve toujours intéressant parce que dans l'autogestion, on essaye toujours de réfléchir justement comment on fait avec le pouvoir, comment on fait pour avoir chacun sa place, etc. Mais il y a aussi une chose qui est en creux de tout ça, qui est la frustration, qui est indéniable. Dans une structure hiérarchique, ben, dans le fond, la hiérarchie fait qu'à un certain moment, si on veut briller de tous ses feux, la hiérarchie est là pour ça. Hein. Mais quand on est dans une structure plate, on ne peut pas briller de tous ses feux. Et donc, il y a tout cet apprentissage de comment on fait avec des choses qui sont extrêmement frustrantes. Et puis, je trouve que c'est une chose que souvent on ne thématise pas beaucoup. Parce que c'est bien ça qui doit se passer. Quand on doit beaucoup écouter l'autre, ça signifie peut-être des fois qu'on doit plus se taire. Et quand on doit faire attention aux tâches de l'autre, aux difficultés qu'il peut avoir, on oublie qu'en contrepartie, ben, c'est peut-être soit qu'on doit mettre plus d'énergie, plus de choses pour compenser la faiblesse ou la vulnérabilité de quelqu'un. Et puis on n'en parle souvent pas beaucoup parce que c'est effectivement quelque chose qui est en creux. Et dans les collectifs, on oublie ça, que pour que ça fonctionne, ben, il y a une grande part de frustration et puis il y a une grande part de plaisir aussi, mais que c'est cet équilibre souvent qui fait fonctionner le collectif.
Je trouve sur la question de la frustration, je pense effectivement quelqu'un qui a des envies d'ascendance, qui a des envies de prise de pouvoir, qui a des envies de prendre de la place par sa personnalité, effectivement il faut qu'elle ronge son frein, clairement, et ça peut être frustrant pour elle. En revanche, là où elle peut décompenser, c'est sur le fait que il y a quand même une énorme place donnée à la proposition d'idées. Et que, ok, elle va pas prendre, toute la place et toute la lumière par sa personnalité, mais par contre, il y a quand même la place pour qu'elle laisse sa marque dans le collectif, qu'elle propose ses idées. Tout n'est pas accepté, mais en fait, la plupart du temps, c'est un peu le bon sens qui prend le dessus. Et donc, si personne n'a rien à dire à cette idée, en général, on dit vas-y, sens-toi libre. Alors, du coup, c'est un peu aussi la. Faut bien être sûr avant de proposer une idée qu'on est prêt à l'assumer tout seul ou à deux maximum, parce que c'est souvent comme ça que ça marche, mais au moins il y a cet espace là pour justement là dessus je trouve qu'il y a peu de frustration parce qu'il y a beaucoup de place laissée au projet, quoi, les uns des autres, je trouve.
Et on est en contradiction avec ce qu'on nous apprend, c'est-à-dire qu'il faut être efficace, il faut être fort et tout dans l'autogestion. Ce qu'il faut, c'est surtout coopérer et laisser la place à l'autre et puis être à l'écoute. Ça nécessite des compétences qui ne sont pas celles qui sont mises en valeur souvent aujourd'hui. Mmh.
Rien n'empêche d'être efficace en autogestion.
Ah ouais, efficace.
Je ne vois pas.
Je me disais dans le sens efficace, dans le sens de briller. Dans le sens de briller.
Mmh. Ouais, de sortir du lot.
De sortir du lot, et puis. Ouais. D'être jeune et dynamique.
Par rapport à la remarque que vous faisiez, je crois que je la nuancerai dans le sens où le principe de ce genre d'organisation, c'est justement que l'individu soit préservé, notamment au travers de ses idées. Mais finalement, ce qui brille, c'est le projet collectif qu'on doit faire vivre, qu'on doit nourrir collectivement. Effectivement, ça ne peut pas convenir à toutes les personnes et on est sociabilisé depuis l'école à ce que... à ce qu'on a à intégrer une forme de méritocratie tout au long de notre existence où en travaillant, etc., on va monter un peu les échelles, on va ascender en quelque sorte. Moi, je pense que justement, ce type d'organisation propose une alternative radicale à ce projet de société qu'on peut nous proposer dès l'école. C'est-à-dire que on préserve d'une certaine manière l'individu et ses envies et ses désirs, mais ils doivent pouvoir, et sa liberté, mais ils doivent pouvoir se frotter, se confronter. Et c'est là où je pense que le conflit, d'une certaine manière, est important, en fait. Le débat est important. En revanche, il doit pouvoir se réguler au travers de règles. C'est pour ça que tout à l'heure, la question du consensus, enfin, ces petites règles démocratiques qu'on instaure, pour moi, elles sont assez importantes. Comment on cadre, en fait, le débat au sein d'un collectif où tout le monde a son mot à dire. Et pour moi, finalement, c'est pas... La frustration, elle peut peut-être venir d'un manque de reconnaissance, mais justement, c'est parce qu'on a été sociabilisé de cette manière-là. On a besoin qu'il y ait quelqu'un au-dessus de nous qui nous dise « c'est bien ce que tu as fait, bravo, continue comme ça ». Et du coup, ça soigne un peu nos égos, hein, et on en a besoin. Mais dans ce type d'organisation, c'est vrai que c'est extrêmement difficile, mais il faut pouvoir aussi soigner un peu les égos, en quelque sorte, de tout le monde, au bon sens du terme. Et qu'il y ait une reconnaissance qui soit faite du travail de chacun et chacune, ce qui n'est pas toujours évident. C'est là où peut-être je pourrais rejoindre ce constat de frustration. On n'a pas toujours la reconnaissance qu'on souhaiterait, on se donne beaucoup, on donne énormément d'énergie, et parce qu'en fait c'est une vie en quelque sorte, un projet presque de vie professionnelle, et du coup... il y a un équilibre qui doit être trouvé au sein du collectif de manière à ce que, tout le monde est responsabilisé, mais soigner aussi le fait que ce travail-là soit bien fait. Et ça, moi, je peux le rencontrer aussi, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on part du principe que, on fait son boulot, quoi, c'est notre devoir, et puis on n'attend pas de recevoir des lauriers, en fait. Alors qu'en réalité, peut-être qu'on en aurait besoin de temps en temps. C'est-à-dire que, collectivement, on admette que, on a bien fait une tâche, quoi.
Alors, une chose, en fait, qui était ressortie à l'époque de ce travail de médiateur, c'était que, effectivement, on disait beaucoup, on dit beaucoup plus facilement les critiques que justement, le fait que, t'as bien fait. Alors, du coup, maintenant... On essaye, c'était très, très fort directement après le passage de ce médiateur. On se mettait plein de petits mots avec des petites fleurs, marquées de ce genre. Ah, merci de faire ça pour moi. Mais on essaye vraiment de faire attention, justement, de régulièrement dire quand quelqu'un a fait une vitrine, de regarder la vitrine que la personne a fait. Ah, ouais, super. Ou dire juste quelle bonne idée. De pas oublier de aussi exprimer quand on trouve quelque chose de bien et pas seulement dire « t'as oublié de faire ça !» Voilà.
Et puis frustration, parce que la démocratie, ça prend du temps, ça marche plus. Une décision prise collectivement, c'est difficile, quoi. C'est des fois frustrant, et puis l'autogestion, ça veut dire accepter de prendre des décisions ensemble. C'est pas toujours la manière la plus dynamique que les choses se fassent.
Et moi, je craignais un peu ça, la lenteur des prises de décision, et j'ai été hyper agréablement surprise. Mais parce que justement, enfin, il y a vraiment ce truc pendant la réunion, il y a tel problème, ok, je le prends en charge, ok, c'est moi qui appelle, ok, c'est moi qui envoie le courrier, ok, on y va là, on se met tous devant la table et on trouve la solution, on bouge tel livre, enfin, je trouve qu'il y a une. Enfin, c'est assez impressionnant de voir qu'il y a quand même un... J'ai pour l'instant jamais senti la lenteur ni la pesanteur de la décision collective. J'ai l'impression que les choses vont... Bien sûr, il y a des projets de plus long terme où ça doit maturer, etc. Mais pour régler des soucis un peu du quotidien, je trouve qu'il y a une espèce de volontarisme qui est assez... Et je pense qu'il est ultra nécessaire. Enfin, je vois pas sinon comment ça pourrait marcher, mais ça marche super bien, quoi, je trouve. Mais ouais, c'est un... Enfin, il faut y aller, quoi. Quand on voit qu'il y a, pendant une demi-seconde, personne ne se propose, il faut que quelqu'un le fasse avant que la minute passe. Enfin,
Avant ça, je prends peut-être le rôle ingrat du maître du temps. Est-ce qu'on fait maintenant les dernières interventions?
Je pense.
Mais les dernières interventions, donc.
Grosse responsabilité.
Et il y avait encore du coup.
Je voulais pas briser ton élan.
Il dit tu peux parler. Ah, je peux parler là.
Mais oui.
Ah, je non, pas que j'attendais que tu dises ce que tu avais à dire. Ça me gêne pas. Non, moi sur l'histoire de la discussion sur la lenteur et la vitesse, ça peut être un vaste débat. Mais moi, je suis pour la lenteur. Je suis pour le temps de la raison, de la réflexion. Ce monde qui a besoin toujours d'aller vite est en train de nous massacrer. C'est une absurdité. Bon, enfin, ça, c'est autre chose. Mais on parle d'autogestion, mais on parle d'autogestion d'un système économique, capitaliste, bourgeois, financier. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que, puis parce que je réfléchis en même temps que j'entends parler quand même, et je me dis, les petites structures, c'est peut-être mieux quand le projet est défini dans ce système-là, où on sait qu'on va vendre des livres, par exemple. Et que si on a de l'argent, on aura un salaire, on va pouvoir vivre. Si on n'est pas trop nombreux, on fera un truc à l'échelle, à une échelle gérable, et on prend le temps de le faire, et c'est bien. J'ai connu des amis qui exploitaient des terres, qui ont vécu en autogestion forcément aussi. Bon, ils ont arrêté de travailler, mais... Et ils ont fait les choses à leur échelle. Bon, même dans un système capitaliste, parce qu'il faut vendre, il ne faut pas se... Il ne faut pas devenir une multinationale, parce que sinon, avec ce problème-là, le problème de l'argent est là. Et ce que tu disais tout à l'heure, finalement, c'est vrai. Si on arrive sur les structures un peu trop grandes aujourd'hui, dans l'esprit de vendre et de faire de l'argent et de rentabilité, c'est certain que l'autogestion va devenir très compliquée. Parce que ce sont les bénéfices et la rentabilité de la boîte qui va être étudiée. Et en même temps, pour aller travailler, pour pouvoir avoir une activité en autogestion, il faut avoir envie de la faire. Aujourd'hui, le système fait que tu dois avoir un salaire. Donc tu vas aller chercher ton salaire n'importe où. Et si tu n'as pas envie de faire d'avoir une activité, je ne vais pas l'appeler travail, je vais tout simplement dire activité, ben, si tu n'as pas envie de la faire, et ben forcément tu n'es pas enclin à être en empathie avec les autres pour réaliser cette chose-là. Et le système d'autogestion d'un seul coup est biaisé par cette idée-là. Et donc, on peut parler d'expériences autogestionnaires qui sont des expériences qui sont libertaires dans la façon de vivre et de gérer quelque chose, mais on ne peut pas parler, on peut pas parler d'autre chose que d'une expérience, parce que pour vraiment expérimenter l'autogestion à grande échelle, faudra vraiment se débarrasser de toutes ces contraintes économiques, autoritaires et tout, de faire que les gens ne s'investissent que dans les secteurs où ils ont envie de travailler. Moi, j'ai toujours dit, je préfère payer quelqu'un, enfin pas payer, je préfère partager, donner à quelqu'un quelque chose plutôt que de le voir venir m'aider et qu'il n'a pas envie de le faire et on va se faire chier à deux. Je préfère faire à la limite tout seul et puis partager ce qu'on a ensemble. J'ai pas besoin qu'il soit poète, qu'il rêve, qu'il fasse ce qui l'intéresse. Aujourd'hui, cette société, elle impose aux gens, par cette contrainte-là, elle leur impose d'aller chercher de l'argent, d'avoir ce besoin. Et du coup, on dénature complètement les rapports au travail entre les gens. Et c'est pour ça que l'autogestion doit être très, très compliquée. Ceci dit, on va parler que dans une cité, il y a les poubelles à ramasser, il y a tout ça, et qu'il faut certainement créer des structures pour faire que ça fonctionne aussi. Voilà, mais ça, c'est quelque chose à penser.
Je peux juste ajouter quelque chose. Disons, il y a quand même des grands projets d'autogestion en Amérique latine. C'est cette très, très, très grande usine qui fonctionnait en autogestion, qui commence avec M, mais c'est pas
Mondragon.
Voilà, Mondragon. Il y avait les LIP qui ont été repris en autogestion. Donc il y a quand même des grosses boîtes qui, face à une faillite, où les employés ont repris les entreprises et les ont fait fonctionner pendant des années en autogestion. Donc ça peut fonctionner, mais effectivement, il faut se réunir autour d'un but. Sauver l'entreprise, faire... voilà.
Ce sera le mot de la fin.
moi je suis vraiment hyper content qu'on ait eu l'idée de vous inviter, parce que pour moi, au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer dans ce genre d'organisation, en fait, votre expérience montre en fait que ça fonctionne, et y compris dans le système économique dans lequel on est. Pour moi, en fait, ce mode d'organisation, c'est presque plus pour créer des brèches et un mode d'organisation qui est possible et qui est réalisable. Et tu viens d'évoquer, il y a effectivement des expériences d'entreprises très très grandes, des territoires entiers. Alors bon, on va pas remonter à la guerre d'Espagne, mais enfin voilà, il y a des territoires entiers qui ont pu fonctionner sous cette forme d'économie-là, autogérée, fédérée. Et le fait qu'on puisse créer ce genre d'îlot économique, parce que malgré tout c'est une activité économique, commerciale, moi ça me réjouit parce que ça montre juste que c'est possible. Puis c'est peut-être ça ce dont on a besoin, c'est surtout de se créer de nouveaux imaginaires pour se dire en fait on peut faire autrement.
Ouais.
Alors après il faut avoir beaucoup de volonté, effectivement, s'épuiser, rêver du travail en rentrant chez soi, et ça demande beaucoup de sacrifices, mais ouais, c'est chouette. Voilà, c'est bien comme mot de la fin.
Parfait.
Merci.
Merci.
Faut pas partir sans manger de la salade, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup.